Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business et la CPME présentent Impact PME. Les experts se mobilisent avec Philippe Bloch.
Dernière partie de notre émission, quatre nouveaux invités avec l'un qui n'est pas en plateau, c'est Charles-René Tandé qui est quelque part dans un bureau ou chez lui. Bonjour Charles-René.
Bonjour, oui, à Strasbourg, à mon cabinet.
À Strasbourg, au cabinet. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des experts comptables, du Conseil de l'Ordre des experts comptables, supérieur de l'Ordre des experts comptables, et que vous êtes avec nous via Skype. À mes côtés également, Philippe Crevel. Philippe, qui est directeur du Cercle de l'Épargne, qui est associé d'ailleurs à la AG2R La Mondiale. Bonjour Philippe.
Bonjour.
On a également, c'est souvent un tandem quand on entend Charles-René. Il y a parfois aussi un commissaire aux comptes, un ami dans les parages, et j'ai la chance d'avoir Yannick Olivier, qui est le président de la Chambre nationale des commissaires aux comptes. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Et j'ai également Anthony Streicher, qui est quant à lui président de GSC. GSC, c'est l'organisme dont on ne sait pas toujours, et j'aime vraiment le rappeler, peut permettre aux entrepreneurs qui se sont plantés, finalement, d'être quand même un petit peu pris en charge, parce qu'il n'y a pas de chômage pour eux, mais il y a des solutions. On va commencer avec vous, Philippe Crevel, parce que vous êtes économiste et que j'aimerais avoir un peu votre regard, puisque le cercle de l'épargne que vous dirigez, c'est un cercle d'études et d'informations à la fois sur l'économie, mais aussi sur la retraite et l'épargne. Quelle est votre observation du moment? Enfin, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on est dans un truc qui n'en finira jamais? Quel est l'état d'esprit que vous ressentez aujourd'hui chez les uns les autres? Est-ce qu'il faut être vraiment inquiet?
Il faut évidemment espérer que ça se termine un jour. Et toute crise se termine un jour. Toute épidémie se termine. Ouais. Que ce soit celle de 1832 ou que ce soit celle de 1918. Et heureusement que l'on trouve un vaccin ou qu'on trouve un remède. Ou même que le temps fasse son œuvre. Aujourd'hui, au niveau des entreprises et au niveau des PME, je dirais que face à un choc qui est historique, centenal,
jamais vu
dans notre existence, notre vie, les entreprises résistent plutôt pas trop mal.
Pour le moment,
mais il y a une résilience qui s'est manifestée d'ailleurs au troisième trimestre, où la croissance française a été la plus forte d'Europe. La production des entreprises en France avait quasiment retrouvé son niveau d'avant-crise au mois de septembre. Évidemment, il y a un deuxième confinement, donc là, on s'en reprend une deuxième vague. Mais il y a eu une capacité de rebond extrêmement importante. C'est lié, évidemment, aux politiques publiques qui ont été mises en œuvre, à la fois le PGE, le soutien via le chômage partiel, et puis également au savoir, au travail des uns et des autres qui ont permis ce rebond et qui permet de maintenir quand même aujourd'hui ce tissu économique. Alors évidemment, la question c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après la deuxième vague. Tout le monde annonce une augmentation extrêmement forte des liquidations, une augmentation du chômage. Moi je ne veux pas voir le pire. Il faut évidemment...
Mais il est possible.
C'est un choc important. Ça déstructure, c'est vrai, les chaînes de production. La demande est entravée à la fois par la peur, par les contraintes sanitaires, et d'autre part, on recule l'investissement. Et ça, c'est un point, évidemment, de vigilance. C'est que les investissements qui ne sont pas faits aujourd'hui, on va les payer, on va dire très fortement, demain et après-demain, parce que la compétitivité de l'entreprise sera en cause. Mais, moi, je préfère voir le côté positif. Pour le moment, ça tient, grâce au travail des uns et des autres. Ce qu'il faut, c'est donner, évidemment, créer l'environnement de rebond une fois qu'on aura résolu une grande partie ou la totalité de cette épidémie.
Il y a une question qui se pose de plus en plus et qu'on commence à entendre. Faudra-t-il sauver tout le monde? Ou faut-il profiter de cette espèce de tsunami pour finalement gagner 10 ans sur la restructuration de l'économie, les formats, les modèles, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de décision à prendre de toute façon là-dessus, mais comment voyez-vous les choses là-dessus?
Alors c'est vrai que si on croit à Schumpeter, il faut qu'il y ait de la destruction créatrice et que cette crise sanitaire fait une accélération
de toutes les tendances existantes.
Évidemment, la digitalisation est en particulier. Après, c'est vrai que le pari qui a été pris par le gouvernement, c'est de dire on essaie de maintenir le plus grand nombre d'entreprises avec les PGE, et la question ce sera évidemment leur remboursement, à savoir comment les entreprises qui sont en extrême difficulté, qui n'avaient déjà pas une forte rentabilité, pourront rembourser. C'est vrai que c'est un risque, parce qu'on va aider pas forcément les entreprises de l'avenir, celles qui seront les créatrices de l'emploi en voulant tout aider aujourd'hui. Ça, c'est un point qui est en termes économiques. Évidemment, je ne parle pas en termes humains, je ne parle pas au niveau social. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu inquiétant. On estime que dans le tissu économique français, il y a entre 12 et 15% des entreprises qui n'étaient pas viables avant la crise et qui auraient dû disparaître quoi qu'il arrive. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'on va maintenir un peu, mais que la question va se poser. Et que c'est vrai que ça peut être un réveil difficile le jour où on va supprimer l'oxygène, ça veut dire les prêts, les aides, et là, ça pourra tomber. Comme à Verdun, pour reprendre une image pour hier le 11 novembre.
Un dernier conseil, je vais me tourner vers René-Charles Tandé. Vous m'avez dit au téléphone que dans la crise de 2008 en Allemagne, ils s'en sont mieux sortis que nous parce qu'ils ont profité de cette période pour former. Et un de vos conseils, c'est-à-dire profitons de cette période pour former. Est-ce que vous affirmez ça au effort ?
C'est un point essentiel. On parle souvent de la réussite allemande via le chômage partiel et on a imité l'Allemagne. Mais il y avait un deuxième point dans la réussite allemande de 2008, c'était la formation. Un exemple tout simple. Une entreprise qui s'appelle Trumpf, qui est très connue et qui fait de la découpe laser au service de l'industrie automobile à Stuttgart, pour Mercedes et Porsche en particulier. Du jour au lendemain, plus de vente de ces machines-outils parce que le marché donc chinois s'est interrompu et que les entreprises allemandes n'en achetaient plus. Elle a décidé de mettre une grande partie de son personnel en formation pour faire du plateau technique pour les hôpitaux. On voit aujourd'hui, évidemment, que c'était une belle opportunité et que cette entreprise Trumpf, aujourd'hui, a des carnets de commandes pleins grâce, justement, à cette reconversion. Et donc, vraiment, il faut insister sur la formation et que c'est un investissement majeur. Aujourd'hui, on sait que les salariés français ont un déficit de formation par rapport à leurs homologues allemands et que là-dessus, cette bataille doit être menée.
Merci beaucoup, Charles-René Tandé. Vous nous entendez bien ? Je reviens vers vous parce qu'on s'est vu, nous, il y a quelques semaines, dans le cadre de votre 75e congrès. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui a changé dans la façon dont les TPE-PME approchent aujourd'hui leurs experts comptables en ce 15 premiers jours de confinement ? Quel est l'état d'esprit ? Quelles sont les demandes qui sont faites aujourd'hui à votre profession ? Quel type de problématiques vous sont posées ? Qui sont, j'imagine, pas les mêmes que celles du premier confinement il y a quelques mois ?
Oui, alors c'est vrai que lorsqu'on était fin septembre, on posait déjà La question, c'est quelle visibilité, parce qu'on sait bien que pour investir, il faut de la visibilité, et on était un peu en incertitude. Je dirais qu'hélas, aujourd'hui, on est moins en incertitude, puisqu'on est dans un deuxième confinement, et qu'évidemment, c'est problématique. Je rejoins tout ce qu'a dit Philippe Crevel à l'instant, c'est qu'à partir du moment où on étale, à un moment, il faudra rembourser, et ça handicape l'investissement futur. Et on sait très bien que les entreprises qui n'investissent pas, à terme, sont en grande difficulté. Donc aujourd'hui, on est presque habitué, puisque c'est vrai que les dispositifs sont les mêmes, de même nature qu'au premier confinement, hein, donc le fonds de solidarité, les PGE qui sont renouvelés ou nouveaux PGE, des étalements s'il le faut en charge sociale. Donc on est sur des dispositifs connus, maîtrisés, mais ça ne fait que s'accentuer. Alors par contre, je dirais qu'il faut faire attention en fonction des secteurs, parce que là on globalise. Mais après, c'est vraiment par secteur d'activité que vous avez des difficultés très sérieuses avec des forts risques de dépôt de bilan à terme. Évidemment, si on parle de la restauration ou les commerces. Et puis, il y en a d'autres aujourd'hui qui tournent. À la différence du premier confinement, on a quand même un certain nombre d'entreprises dans les secteurs d'activité qui tournent. Et ça, c'est plutôt rassurant quand même pour l'économie globalement.
Et qu'est-ce qu'on peut leur donner comme... est-ce qu'il y a des priorités aujourd'hui à indiquer à ces entrepreneurs ? Le chômage partiel, la décision doit déjà être prise pour eux. Par rapport au financement, quelles sont les problématiques nouvelles qui émergent de cette période, qu'on n'a même pas vu il y a quelques semaines ou il y a quelques jours ? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que vous ressentez ?
Ce qui est important, alors c'était le premier confinement qui avait montré que par moment on peut se sentir seul et il faut absolument avoir une certaine indépendance par rapport aux approvisionnements, par rapport à toute une série, évidemment, du process de production. Et donc, ça, c'est important que l'entreprise puisse avoir plusieurs solutions, parce que lorsqu'on n'en a qu'une, eh bien, on est dépendant. Donc ça a déjà... Le premier enseignement a été tiré, donc je pense que ça va mieux aujourd'hui. Deuxième élément, bien évidemment, et c'était le débat que vous aviez précédemment, tout ce qui concerne le numérique qui permet d'avoir des solutions de substitution. Un click and collect, bon, ça se développe. On travaille avec nos clients aussi sur le schéma économique de ce système. Évidemment, les équations de gestion ne sont pas les mêmes, mais ça permet aussi de passer, et ça s'est fortement développé. Donc c'est vrai que finalement, on réagit mieux sur ce deuxième confinement reste quelques entreprises qui ne sont pas équipées, qui n'ont pas les possibilités et qui sont en très grande difficulté.
J'entends souvent dire de plus en plus d'ailleurs que les experts comptables peuvent jouer un rôle primordial dans la numérisation des entreprises françaises. Est-ce que si je suis une TPE, une PME qui nous écoute aujourd'hui, j'ai intérêt à aller voir mon expert comptable là-dessus, il peut m'aider ou pas ?
Oui, absolument. Nous-mêmes, nous sommes passés quand même hein, à l'ère numérique. On parlait tout à l'heure de signature électronique, on a notre signature électronique, de facture électronique qu'il va falloir mettre en place. Tout ça, les experts comptables peuvent aider, bien évidemment, les clients. Bien sûr qu'on est là, nous, au service des petites et moyennes entreprises. Et cette approche, on va dire, générale, globale du système d'information de l'entreprise, expert comptable peut bien évidemment apporter sa contribution.
Merci Charles-René. Attendez, je vais me tourner vers quelqu'un que vous connaissez très bien, Yannick Olivier, qui représente l'autre profession que souvent, d'ailleurs, vous incarnez l'une et l'autre, parce que vous avez souvent les deux métiers qui sont les commissaires aux comptes. Vous avez un job différent. J'aimerais peut-être qu'on rappelle à nos amis qui nous écoutent la différence entre un expert comptable et un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes n'est plus une obligation en deçà d'un certain seuil d'activité. Il le reste pour un seuil un peu plus élevé. Mais c'est surtout un devoir de vigilance et d'alerte qu'a ce métier de l'expert. Est-ce qu'on peut rappeler un peu la différence de vos deux métiers, Yannick Olivier ?
Oui, alors, donc bonjour Philippe, mais effectivement, on est bien sûr deux rôles totalement différents, mais totalement complémentaires.
C'est ça. Que
l'expert comptable, il est vraiment dans le conseil, il est vraiment dans l'accompagnement au quotidien de l'entreprise. Et donc, tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, quand il faut mettre en place les aides, quand il faut répondre à des besoins...
Le chômage partiel,
etc.
Les prêts PGE.
Nous, on a un rôle complètement différent, mais extrêmement complémentaire. C'est celui, effectivement, d'avoir ce regard totalement indépendant et extérieur qui nous permet d'avoir un échange avec les dirigeants, soit parce que nous sommes leurs commissaires aux comptes et qu'on leur certifie leurs comptes et qu'au travers de cette mission, on a une analyse de risque partagée. Parce que le commissaire aux comptes, c'est surtout quelqu'un qui analyse les risques, qui les évalue. Et donc, ça intéresse bien sûr au premier chef, le dirigeant, parce que, notamment aujourd'hui, on voit bien que les enjeux bougent aussi. Et puis, le deuxième élément de notre mission, c'est qu'on a, en dehors des missions de certification, maintenant, on a des missions d'accompagnement, qui ne sont pas des missions de conseil, mais qui sont des missions justement qui participent à la transparence et la sécurité financière.
Qui sont nées de la loi Pacte, notamment.
Qui ont
réduit le nombre de vos mandats, mais qui a élargi les possibilités.
Elle n'a pas réduit le nombre de mandats, non. Elle a juste dit que c'était plus obligatoire, on n'imposait pas aux entreprises au-delà d'un certain seuil, mais ça ne veut pas dire que beaucoup d'entre elles ne continuent pas à certifier leurs comptes.
On a eu dans cette émission des gens qui ont continué leur mandat et qui sont ravis parce qu'elles ont ce deuxième regard que parfois apportent d'ailleurs des investisseurs ou des fonds d'investissement dans les entreprises.
Exactement, donc en fait c'est important sur la sémantique parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir cette rapidité de dire finalement puisqu'on relève les seuils. Non, c'était le fait de dire aux entreprises, il faut qu'elles fassent un acte au-dessus d'un certain seuil, bon forcément l'importance des enjeux fait que c'est obligatoire, mais en dessous c'est utile, mais il faut que l'utilité soit totale et donc les entrepreneurs achètent. Et ils achètent en fait. Et ils achètent parce que justement, ils ont besoin de ce regard extérieur. Et là, on parle du contexte du Covid. Forcément, à un moment donné, de nouveaux enjeux, de nouveaux risques apparaissent et ils vont avoir besoin de cet échange avec vous qui êtes extérieur, vous, mon commissaire aux comptes. Quel regard vous portez sur mon activité, sur les nouveaux enjeux? On a parlé tout à l'heure, vous parliez du digital et du numérique. Ils ont dû changer en très peu de temps le paradigme de fonctionnement de leur entreprise, développer le numérique, développer d'autres modes de commercialisation. Vous parliez du kick collecte ou même des sites internet de vente en ligne, etc. Et donc, en changeant complètement leur modèle économique, ils changent complètement aussi d'analyse de risque. Et donc, arrivent des enjeux de cyber, des enjeux, effectivement, de développement économique dans un autre cadre. Et donc là, ils vont attendre notre regard. Et nous, notre rôle, c'est de dire, attention, effectivement, nous, on connaît les risques et on sait les process qu'il faut mettre en place. Et nous avons des entreprises qui nous disent, mais attendez, finalement, rassurez-moi, est-ce que les process que j'ai mis en place, souvent dans l'urgence, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'il faut que je les améliore? Et donc, nous, on a le droit d'avoir ce regard tout en restant indépendant sur les process de contrôle interne et leur dire, non, là, il y a à travailler sur tel thème, et donc on les renvoie d'ailleurs souvent vers leur expert comptable pour les accompagner dans les améliorations.
Vous êtes en train de me dire, Yannick Olivier, que contrairement à ce qu'on croit parfois, c'est-à-dire qu'on croit qu'on voit son commissaire aux comptes une fois par an quand on publie ses comptes, en fait on a des interactions très, très, beaucoup plus fréquentes que cela quand, sur cette alerte que vous évoquiez ou sur...
Alors, on peut parler un peu de l'alerte et de la prévention, mais je reviens sur votre remarque sur la mission permanente. La mission du commissaire aux comptes, elle est permanente, c'est pas une fois par an pour la certification des comptes.
On a tendance un peu à penser ça quand on ne connaît pas bien votre métier.
Exactement, le métier, parce qu'en fait on communiquait peu et maintenant justement on communique beaucoup plus sur notre rôle et on intervient à plein de moments différents dans l'année et avec justement des enjeux soit d'anticipation, soit d'analyse de risque, soit de revue de process interne, etc. Et puis on a aussi cet enjeu, vous l'avez évoqué un peu rapidement là à l'instant, celui de la prévention. La prévention c'est quoi? C'est de dire qu'on a ce regard avec le dirigeant et à un moment donné quand nous on détecte des signaux faibles qui nous laissent à penser que l'entreprise pourrait se retrouver dans une situation délicate ou qu'elle a des difficultés qui peuvent se présenter, d'imposer ou d'obliger, mais quelque part, je dirais d'inciter à avoir un échange avec lui sur, bon, posons les chiffres, où on en est, comment vous analysez votre situation, et de l'amener à aller peut-être aussi se poser les bonnes questions, aller chercher les bons conseils, là encore une fois souvent auprès d'experts comptables, et puis derrière, peut-être prendre les dispositions qui s'imposent, un plan de trésorerie, les réflexions autour de l'investissement, les réflexions autour justement du prospectif, et nous on va les inciter à mener ces débats-là, et puis parfois, malheureusement, on va peut-être être obligé de leur dire, attendez, la situation là est tellement grave qu'il faut absolument que vous alliez vous orienter soit vers des dispositifs non judiciaires type CIP et autres, pour qu'ils puissent avoir des aides un peu plus fortes que les aides qui ont été mises en place par l'État d'accompagnement dans une entreprise qui commence à avoir des difficultés, voire même vers les tribunaux de commerce s'il le faut, pour qu'ils puissent vraiment anticiper l'enjeu. Là, on parlait tout à l'heure de la vague des défaillances. L'enjeu de la prévention, c'est l'anticipation. Plus une entreprise identifie ses problématiques en amont et met en place un plan d'action en amont, plus il a des chances de survivre dans de bonnes conditions. Et notre rôle à nous, justement, c'est justement de les alerter le plus tôt possible pour qu'ils puissent réagir en temps voulu.
Merci Yannick Olivier, je me tourne vers Anthony Streicher. Anthony, vous êtes le président de GSC, qui a été créé il y a déjà 40 ans.
Eh oui, 40 ans déjà, Philippe.
Alors là aussi, idée reçue aussi, quand on pense qu'il n'y a pas de possibilité pour l'entrepreneur de se protéger d'une éventuelle faillite ou d'être au chômage, parce que ça peut malheureusement arriver, on évoquait le rebond au début d'émission. Eh bien si, il y a des solutions, on ne les connaît pas toujours, et c'est vous en partie.
Alors, il y a des solutions, et je vais essayer, on va profiter, parce que là j'ai Nora avec plein de conseils qui sont autour des hommes et femmes chefs d'entreprise. L'association GSC, depuis 40 ans, elle s'occupe des gueules cassées de l'économie. Vous savez, aujourd'hui, les hommes et femmes qui trébuchent, qui ferment le rideau. L'association, elle s'occupe de ces hommes et de ces femmes-là. Et aujourd'hui,
Depuis 40 ans.
Et aujourd'hui, où on tire la sonnette d'alarme, c'est quoi qu'on en dise, les chiffres économiques et la situation dans laquelle on est, on s'attend de toute façon entre 100 à 150 000 hommes, femmes, chefs d'entreprise en 2021-2022 qui vont fermer le rideau. Aujourd'hui, je donne des chiffres, 22 000 hommes, femmes, chefs d'entreprise ont déjà fermé le rideau au 30 septembre sur ces hommes et femmes.
22 000, pardon, mais par rapport à en plus...
En 2019, que... là, en 2020,
mais
excusez-moi.
C'est plus que d'habitude
c'est
ou c'est...
beaucoup moins grâce à toutes les aides économiques.
Oui.
Et un chiffre, sur ces 22 000, vous en avez moins de 2300 qui ont eu un dossier ATI pour avoir un minimum d'allocation. Donc on a un défaut d'information. On s'occupe de l'entreprise, on s'occupe du CIRET, on essaie de tout faire pour le développement de l'entreprise, sa survie. Une fois que l'entreprise tombe, moi je parle de l'homme et la femme.
On le laisse tomber, la gueule cassée, on laisse
la gueule cassée. Et aujourd'hui l'association, donc je prends un mot aujourd'hui, seule l'association ne peut rien. L'ensemble de l'État, l'ensemble de nos confédérations, l'ordre des experts comptables, les CAC, aujourd'hui sur l'ensemble de nos entités, on a un devoir de conseil et d'accompagnement. Dès maintenant, vous parlez d'anticipation, de prévention, c'est dès maintenant qu'il faut qu'on en parle avec les chefs d'entreprise. Il faut qu'on parle d'eux. Que font-ils pour eux? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ils sont là du matin au soir pour développer la France, et à un moment donné, les 10% d'actifs français, on les oublie dès qu'ils ferment le rideau. Donc aujourd'hui, prenons acte, prenons rendez-vous. Qu'est-ce qu'on fait demain, ensemble, pour les accompagner, les aider à déjà être informés, se structurer et aller de l'avant? C'est alors ça mon discours d'aujourd'hui.
L'appel est lancé. Pour autant, ça c'est demain, en tout cas on l'espère. Il ne faut pas que ça aille trop tard, mais c'est demain. Pour autant, il y a aujourd'hui et il y a quand même des solutions.
Il y a des solutions qui existent.
Mais qu'on continue d'ignorer. C'est pour ça que je me permets de vous les faire rappeler.
Aujourd'hui, il y a par exemple l'ATI qui est une promesse de...
Expliquez ce qu'est l'ATI, tout le monde ne connaît pas.
C'est l'allocation, en fin de compte, pour les indépendants. Ces entreprises, s'ils sont passés par une défaillance d'entreprise ou une liquidation, ils peuvent soumettre un dossier à Pôle emploi pour avoir 800 euros pendant 6 mois. C'est toujours mieux que rien. Et aujourd'hui, le drame, c'est dramatique. 22 000 personnes y sont passées, moins de 2300 dossiers à Pôle emploi. Sur ces 2300, il y en a 800, Philippe, qui sont toujours en étude de dossiers.
Par manque d'équipe, par manque de... Trop de dossiers, pas assez de monde.
On a des discussions aujourd'hui avec le conseiller spécial au niveau du ministère de M. Griset pour essayer de comprendre, d'aller plus loin, de dire, et à l'instant d'aujourd'hui, aidons-les, ils sont tombés. Ils sont là, on s'occupe, vous parliez tout à l'heure de qu'est-ce qu'on fait des gens. Il y en a qui vont faillir, il y en a qui vont tomber. Ben, il faut qu'on s'en occupe. Dans plus de 30% des cas, ces gens-là, en plus, recréent derrière. Redéveloppe. Encore faut-il qu'ils aient à manger dans leur frigo, qu'ils aient la capacité de rebondir.
Les rebondisseurs qu'on évoquait tout à l'heure. Et GSC existe pour autant, il faut le rappeler, c'est une assurance que l'on peut prendre
quand on va bien. C'est ça où c'est positif.
C'est important de le rappeler. Pour ceux qui vont bien, prenez une assurance.
Pour ceux qui vont bien, vous prenez une assurance. Psychologiquement, ça vous aide déjà.
C'est pas très cher, c'est pas plus cher que pour ses propres salariés.
Ça coûte moins cher que pour ses propres salariés. Ça vous permet de mieux dormir. Ça vous permet de prendre les décisions quand vous êtes en crise de façon beaucoup plus sereine et posée pour réagir, rebondir et ne pas faillir. Ce n'est pas une patte de lapin, mais ça aide énormément à réussir.
Il nous reste à peine 45 secondes, Philippe Crevel. Juste un commentaire. Je vous ai vu réagir à quasiment tout ce qui vient d'être dit. Alors, vous avez 45 secondes pour réagir.
Il a dit oui à tout.
Je dis oui. Non, ce qui est important, c'est évidemment le conseil. Et on voit bien que dans cette période extrêmement difficile, délicate, le risque, c'est l'isolement. À la fois parce que le confinement incite à l'isolement, ou plutôt on est obligé au confinement. Mais on voit bien que ce soit les commissaires aux comptes, les experts comptables ou l'association GAC, il y a évidemment, et je parlerai également des assureurs et d'un groupe de protection sociale comme AG2R La Mondiale, il y a aujourd'hui une somme d'acteurs qui sont au service en fait, des entreprises et des PME pour à la fois glaner l'information et les conseiller sur les modalités à la fois pour survivre ou pour le cas échéant à faire face à une situation extrêmement compliquée. Et donc je crois qu'il faut surtout dire aux chefs d'entreprise, n'ayez pas peur de faire appel à l'ensemble des conseillers auxquels vous avez le droit.
N'ayez pas peur et surtout parlez des difficultés, partagez, il y a des solutions partout. Merci infiniment à tous les quatre. Merci Anthony Streicher, président de GSC. Merci Charles-René Tandé, président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Merci Yannick Olivier, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Et merci Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.